7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment lutter contre le gaspillage alimentaire à son niveau de consommateur, de citoyen? Il faut avoir une donnée en tête, je crois. Environ la moitié de la nourriture qui est produite dans le monde n'est pas consommée. Nous allons en parler aujourd'hui. Alors, nous allons parler des pertes au moment de la production agricole. Là, c'est vraiment un problème d'agriculture qui représente, par exemple, l'essentiel du gaspillage sur le continent africain. On va plutôt parler de la nourriture qui est jetée au sein même des foyers ou chez les commerçants ou encore dans les restaurants. En France, chaque Français jette 20 à 30 kilos d'aliments par an. Alors faut-il revoir sa façon de cuisiner, emporter les restes dans un sachet en quittant par exemple un restaurant, contraindre les commerçants à redistribuer? Comment lutte-t-on contre ce gaspillage des villes dans votre pays? Appelez-nous dès maintenant les voisins au 33 1 84 22 71 pour dialoguer avec vous, échanger peut-être des idées, des constatations, des analyses. Sonia Esgulian, bonjour Sonia.
Bonjour.
Vous publiez des livres de recettes assez particulières. Hein. Il y a Ma cuisine astucieuse, Cuisiner tout simplement. En gros, vous spécialisez, je dirais, dans la cuisine en temps de crise ou l'art d'accommoder les restes. Hein,
simplement le quotidien, quotidien avec toutes ses contraintes et tous ses plaisirs.
Et beaucoup de techniques de conservation, peut-être aussi des habitudes que l'on avait perdues.
Oui, hein. Tout à fait. Un certain bon sens.
Exactement, ça fait pas de mal. Que faire avec des épluchures d'oignons, par exemple? Vous nous donnerez la recette.
Tout à fait.
Plutôt que de les mettre à la poubelle. Guillaume Bapt, vous êtes directeur de l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Bonjour.
Bonjour.
Nous serons également en ligne avec Arash de Rambarche, qui est conseiller municipal à Courbevoie et auteur d'un manifeste contre le gaspillage alimentaire, alors qu'une loi est examinée en France, au Sénat, sur le gaspillage alimentaire. Je vous lis quelques messages qui sont postés par nos auditeurs sur notre fil Facebook ou Twitter. Adrien, qui est à Douala au Cameroun, nous dit que chez lui, les restes du repas de la veille constituent le menu pour le petit déjeuner du jour suivant. Il y a donc très peu de nourriture qui part à la poubelle. À peu près même constat chez Abdou N'Djamena au Tchad. Il nous dit: on ne gaspille rien. Dans mon pays, on mange nos restes pendant plusieurs jours, car dans ma culture, on cuisine de grandes quantités d'aliments, donc que l'on peut faire réchauffer. Guillaume est à Goma, en République démocratique du Congo, à l'Est. Le gaspillage alimentaire doit être pallié par une éducation alimentaire. Sage constat, en effet. Manger plus n'est pas l'assurance d'une meilleure santé. Il faut donc faire de plus petites quantités, manger moins et donc moins gaspiller. Ange Bourra, qui est à Dakar, nous dit: le gaspillage est un danger public. Les supermarchés, les grandes surfaces devraient mettre au point des solutions pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la nourriture plutôt que de la mettre à la poubelle. Donc, vous voyez comme quoi le gaspillage gagne aussi parfois les villes africaines, hein, Guillaume Bapt.
Oui, je crois que notre société surproduit, invite à surconsommer, et effectivement, je crois que par capillarité, ça touche maintenant le monde entier, c'est un vrai sujet d'actualité, et effectivement, après que l'Assemblée nationale ait voté à l'unanimité cette loi contre le gaspillage alimentaire en France, maintenant elle est au Sénat.
Voilà, le sujet nous concerne donc tous, 33 1 84 22 71 71, c'est aussi l'occasion de faire quelques petites économies, et ça fait toujours du bien au porte-monnaie.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Sonia Esgulian et Guillaume Bapt, est-ce que vous convenez qu'il existe tout de même aujourd'hui vraiment une vraie sensibilité dans l'air du temps des consommateurs, des citoyens au sujet du gaspillage alimentaire, Sonia Esgulian?
Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a une certaine indécence à gaspiller. Je pense que les gens ont pris conscience que le produit ne peut plus être gaspillé. Le produit a aussi... On change en fait d'habitude en termes de produit. On va acheter de meilleure qualité. On va acheter un produit plus sain, avec un circuit court, on va acheter un produit bio peut-être, ou en tout cas sans traitement, et on va l'utiliser beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va utiliser effectivement, pourquoi pas, les feuilles, les épluchures, différentes choses. Et moi, je le ressens beaucoup à travers les réseaux sociaux. On me demande encore plus d'astuces, d'idées. Par exemple, on achète aujourd'hui un produit brut, on rentre à la maison avec les fans de carottes, avec les feuilles de betterave, et on a envie d'avoir des idées et surtout cuisiner beaucoup plus juste, beaucoup plus.
Et ça s'est vraiment répandu dans les mentalités. c'est un peu tout milieu aujourd'hui, ça. C'est cette
envie
de.
C'est pas du tout une attitude. Alors, évidemment.
La crise de 2008 est passée par là aussi. En même temps, paradoxalement, Guillaume Babtz, depuis les années 60, le budget qui est utilisé pour l'alimentation n'a cessé de baisser dans les foyers.
Alors, oui et oui et non. Alors, oui, dans les populations, on va dire, qui sont à un bon niveau de confort de vie, moins chez les gens qui sont en précarité. C'était un économiste allemand, Engel, qui disait plus vos ressources sont faibles, plus la part que vous consacrez à l'alimentation, en proportion, est forte.
Bien sûr.
Et inversement, plus nos ressources sont fortes, plus cette même part que l'on consacre à l'alimentation, toujours en proportion, est faible, alors que le loyer, le chauffage reste stable.
Oui.
Donc effectivement, il y a cette dichotomie entre un public effectivement plutôt privilégié et puis des gens qui sont plutôt en situation de précarité.
Qui est votre public pour les épiceries solidaires.
Les épiceries solidaires, effectivement, c'est un réseau aujourd'hui français, mais qui s'étend dans différents pays européens et qui est aujourd'hui très visité par les pays du monde entier, notamment par l'Afrique, l'Inde. On a reçu les députés indiens il n'y a pas très longtemps. On a reçu des lords anglais qui sont venus voir comment on pouvait dupliquer ou essaimer le système en Angleterre. Pourtant, un pays libéral, donc c'est assez amusant de voir qu'il y a cet intérêt.
Parce qu'il y a des besoins.
Parce qu'il y a des besoins. Alors, le gaspillage alimentaire, et oui, il y a besoin, vous avez raison, madame, de dire qu'on veut manger local, on veut manger avec du sens, on se dit qu'on est dans une hérésie de faire venir des fraises du Chili, et je n'ai rien contre le Chili, au moment de Noël, et que ça devient, il n'y a plus de sens. Il y a aussi le croisement d'une crise, vous l'avez dit, 2008, avec deux chiffres que les médias, et c'est leur rôle, mettent en exergue, de dire, d'un côté, il y a des gens qui mangent pas, et d'autre côté, il y a du gaspillage. Et la question, c'est, est-ce qu'il y avait moyen de réunir ces deux idées?
Donc, c'est 16 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, et 40 kilos de nourriture gaspillée par jour dans chaque grande surface. 40 kilos, ça peut sembler pas beaucoup, mais c'est par jour, faut bien le préciser. Alors, justement, nous sommes en ligne avec Arash de Rambarche, qui est conseiller municipal à Courbevoie et auteur d'un manifeste contre le gaspillage alimentaire. Bonjour, monsieur de Rambarche.
Bonjour, merci pour votre invitation et mes amitiés et bonne année à vous et à vos...
Et à tous nos auditeurs.
À vous inviter.
Et vous êtes aussi donc à l'origine d'une pétition qui a été lancée en ligne en 2014. Aujourd'hui, une loi proposée par un député PS a déjà été adoptée.
Non, pas du tout.
Alors, on va pas tomber dans les polémiques politiciennes parce qu'on est vraiment là pour parler du sens et du plus important.
Arash
de Rambarche. Allez-y, je vous en prie.
Voilà, on va repréciser les choses. D'ailleurs, RFI avait fait un papier là-dessus. Par une de vos collègues.
Oui, mais on n'est pas dans une émission politique. Alors parlons vraiment du gaspillage
madame,
alimentaire, parce que c'est vraiment tout. Vous êtes à l'origine de ce combat-là, on est bien d'accord, monsieur
voilà,
de Rambarche.
Je ne suis pas à l'initiative d'une pétition. La pétition, elle est venue à la suite d'une action de terrain. C'est une absurdité en France. Il faut dire les choses là de façon dans l'ordre.
Alors quelle est cette absurdité sur le terrain, voilà, justement, monsieur de Rambarche?
J'ai été élu à Courbevoie, parce que moi-même, j'étais étudiant, je gagnais que 800 euros par mois. Je bénéficiais de des Restos du Cœur. Après avoir payé mon loyer, il me restait plus que 400 euros. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai été élu en mars 2014, on n'est pas dans la politique politicienne, mais dans la réalité, madame. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir Monoprix et Franprix, qui ne voulaient pas me céder leurs invendus, parce que je n'avais pas la chaîne de froid. Du coup, j'ai utilisé une astuce, j'ai contourné cette règle pour faire une distribution immédiate, sauf que c'est un vide juridique. Et pour obtenir une loi, j'en ai fait une pétition avec Mathieu Kassovitz, soutenu par la Croix-Rouge française et Action contre la faim, on a 750 000 signatures. Ce n'est pas une loi venant du Parti Socialiste, mais une loi votée par tous les élus de la République française. À l'unanimité, il faut pas la faim et la soif n'ont pas de couleur politique, que je me permettais de vous préciser. Et donc, le 9 décembre, en première lecture, ça a été voté. Et en deuxième lecture, et définitivement ce soir au Sénat, ce sera une loi historique. La France sera le premier pays au monde qui va interdire aux supermarchés de jeter leurs invendus dans les poubelles et de les javeliser. Concrètement, ça va être très simple, un citoyen français, France et Dom-Tom, qui voudra venir fonder son association, la créer, déposer ses statuts à la préfecture, obtenir l'habilitation, pourra ensuite aller récupérer les invendus auprès du supermarché. Si le supermarché refuse, c'est 3750 euros d'amende avec une publication dans un journal. Les supermarchés sont prévenus et devront jouer le jeu.
D'accord. Mais à l'heure actuelle, les grandes surfaces ont déjà des conventions avec des associations.
Non, d'ailleurs, c'est faux, madame. C'est faux ce que vous dites. C'est complètement faux.
Guillaume Babs, vous, pour les épices.
Ça fait des années. Attendez, il ne faut pas dire les choses fausses. Vous demandez la vérité, monsieur.
Monsieur Babs, s'il vous plaît, je vais répondre. Merci.
Peut-être laissez-vous s'exprimer, Guillaume Babs, juste quelques secondes.
Oui, allez-y, monsieur de Rambard. Je suis un élu de terrain, c'est quelque chose que je connais par cœur, quand même. C'est du vécu. Donc, monsieur Babs, c'est gentil, mais vous parlez de choses que moi je connais. Bon, la loi, pourquoi elle est. Non, mais je vais vous répondre, quand même, si on permet.
Allez-y, monsieur de Rambard.
Voilà. La loi, elle est prévue pour une raison très simple, c'est qu'il y a un tiers des supermarchés qui dépendent de la FCD, donc la Fédération de commerce de la grande distribution, et des sièges sociaux. Les deux tiers sont des indépendants, donc des commerçants indépendants, et ce sont des franchises. Donc du coup, les deux tiers s'affranchissent, en fait, de ce que peuvent penser que ce soit. Par exemple, le système U, par exemple, le Leclerc et tout. Moi, les deux supermarchés, vus par l'AFP TV et le Parisien TV, sont venus, et encore en caméra cachée, encore quelques semaines, les supermarchés qui sont des franchises font ce qu'elles veulent. La loi va permettre de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, monsieur Babs,
est-ce qu'aujourd'hui, Arrache de Rambarche, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des supermarchés qui javelisent leurs produits frais invendus pour être sûr qu'ils ne soient pas récupérés? Parce que.
Non, mais il y a deux semaines avec l'AFPTV et le Sénat, avec Public Sénat, nous sommes partis en caméra cachée le faire. Donc, bien sûr que. Voilà. Donc la loi va mettre tout le monde en pied d'égalité.
Est-ce qu'il faut viser les supermarchés essentiellement, alors que finalement, on le sait, en France et dans les pays développés en général, l'essentiel du gaspillage se passe au niveau des foyers, au niveau finalement de la gestion du frigo. Hein.
Ce que vous dites est vrai et faux, madame. Je vais vous dire pourquoi c'est vrai ce que vous dites. Ce qui est vrai, c'est que le gaspillage alimentaire, au sens consommation pour les foyers, c'est vrai. Le supermarché, ça ne correspond qu'à 5% de tout le gaspillage alimentaire. Mais ces 5% sont fondamentaux, madame. Pour une raison très simple, c'est que chaque supermarché jette tous les soirs environ 50 kilos tous les soirs. Ces 50 kilos peuvent être consommables. Et en face de ça, vous avez 10 à 15 millions de Français qui souffrent. Nous, à Courbevoie, je vais vous dire concrètement ce qu'on a fait en laboratoire à Courbevoie. Lorsqu'on allait récupérer, on récupérait environ 50 kilos et en borderon, on signait pour l'équivalent de 500 euros. Donc 50 kilos de nourriture, c'est équivalent de 500 euros. Avec ça, on nourrissait 50 personnes de la classe moyenne et 50 SDF. Donc ça nourrit 100 personnes.
C'est clair que oui, l'enjeu il est important pour les associations, on est bien d'accord.
Surtout pourquoi ? Parce que cette loi va permettre pas simplement aux associations qui peuvent stocker la nourriture, mais également aux associations qui veulent faire de la distribution immédiate. C'est ce que je voulais dire, Monsieur Babs, qui visiblement connaît bien le sujet.
Et comment ça va se passer, du coup, pour tout ce qui est logistique? Qui va financer? Parce que les invendus, madame, sont à la porte du supermarché. Qui va financer le transfert, madame, le transport de ces invendus?
Je viens de vous dire pas besoin de logistique, parce qu'on parle de distribution immédiate.
C'est-à-dire?
C'est ce qu'on a fait à Courbevoie. La loi, elle vient de cette initiative à Courbevoie. Concrètement, le supermarché ferme à 21h. Nous, on vient à 20h30 avec nos bénévoles.
Oui.
Et au moins, vous pouvez être trois, parce que lorsque vous fondez une association, vous êtes trois personnes, le président, le secrétaire et le trésorier. Donc, comme je vous l'ai dit,
Donc, des associations viennent avec des camions frigorifiques. Qu'est-ce que vous faites pour la chaîne du froid ?
Non, madame, pas besoin de frigo, je viens de vous dire. Vous allez récupérer les invendus, vous les donnez automatiquement. C'est de la distribution immédiate.
D'accord, à la porte du supermarché.
Exactement, c'est ce qu'on a fait à Courbevoie. La loi, elle vient de ça, madame.
Alors, je voudrais rappeler à notre interlocuteur que la loi prévoit que les associations doivent être habilitées par l'État, alors soit par des grands réseaux comme le nôtre.
Guillaume Babs,
soyez précis, monsieur Babs.
Ben, vous voulez absolument pas, et vous dites tout son contraire, donc c'est dommage. Vous laissez pas les gens répondre, c'est quand même dommage. Vous monopolisez la parole. Soyez correct et respectez que les gens aient un autre point de vue et qu'ils s'expriment.
Vous ne connaissez pas.
Attendez, ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet, monsieur, bien avant vous.
Arrache de Rambarche,
vous pouvez travailler tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de concret avec vous, monsieur Babs.
Arrache de Rambarche, juste
vous n'avez jamais vu loin, vous ne connaissez pas, monsieur, vous jugez comme ça.
Arrache de Rambarche, pour en terminer.
Les gens qui parlent depuis 10 ans et qui disent ça fait 10 ans, alors soyez concret, avec vous, il y a eu zéro résultat. Alors arrêtez de dire n'importe quoi.
Alors justement, Arrache de Rambarche, vous continuez votre combat maintenant au niveau européen, puisque, donc vous le disiez, ça va être une première en France et par rapport à d'autres pays, voire même au niveau mondial. Vous avez fait des propositions devant les Nations Unies en septembre dernier avec l'aide de personnalités internationales. Voilà. Qu'est-ce que vous visez maintenant au niveau international, Arrache de Rambarche?
On a fait passer l'amendement au 9 juillet dernier au Parlement européen, c'était voté. Sachez que l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche ont voté contre. C'est intéressant parce que pour eux, c'est le clergé qui gère le gaspillage alimentaire et pas l'État. Bon, l'amendement a été voté quand même. On attend maintenant, je dois aller bientôt voir Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, parce qu'on a besoin de sa signature pour que ça soit passé. faut savoir qu'en France, c'est 10 à 15 millions de personnes qui vont bénéficier de cette loi. Dans l'Union européenne, c'est 80 millions. Donc, je suis également parti, là, dernièrement, en Afrique du Sud. J'ai vu le président Zuma et sa ministre qui vont faire appliquer la loi en Afrique du Sud.
Je dois faire bientôt. Donc, toujours pour contraindre les commerçants, la grande distribution, les grandes surfaces à redistribuer. Merci beaucoup, Arash Doran-Barch. Je précise donc que vous êtes conseiller municipal à Courbevoie. Votre manifeste contre le gaspillage alimentaire, d'ailleurs, a été publié chez Fayard. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle notre numéro de téléphone du Standard pour vous, les voisins et les voisines. Si vous souhaitez poser des questions à nos invités, échanger aussi des astuces et puis comment faire au niveau de votre pays pour limiter le gaspillage alimentaire. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Guillaume Batz, pour les épiceries solidaires, alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là, ça y est, qui va passer en France, qui va contraindre donc, avec des amendes peu dissuasives néanmoins, mais qui va vraiment contraindre la grande distribution, les grandes surfaces à redistribuer, à avoir des conventions systématiques, qui ne pourront plus détruire leurs invendus, etc.
Alors, je crois que d'abord, on est dans un moment un peu passionnel, là. Il faudrait ramener les choses à leur juste valeur. Évidemment, les enseignes n'ont pas attendu cette loi pour distribuer des invendus. Alors, pour mémoire, le groupe Carrefour délivre 1 million de repas par an. Et ça fait des années. Donc
il y a des incitations fiscales aussi, hein, il faut le dire.
Oui,
mais pour vous, les épiceries solidaires, ça veut dire que vous travaillez déjà largement avec la grande distribution.
Mais bien sûr, et ça se fait partout.
Comment ça se passe?
Alors, c'est plutôt des relations de gré à gré. Et effectivement, la loi, elle a pour tendance de contraindre ceux qui ne jouaient pas le jeu. Mais c'est quand même relativement infime parce qu'aujourd'hui la pression citoyenne fait que la plupart des enseignes jouent ce jeu. Alors la difficulté qu'on a à lier à la fois le gaspillage alimentaire et l'aide alimentaire, c'est que on risque de donner des produits qui ne correspondent pas aux attentes des gens. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord un sujet culturel, c'est-à-dire que quand j'arrive moi d'un pays de l'Afrique de l'Ouest et que je me retrouve face à un produit typiquement français, j'ai un peu l'impression d'être une poule devant un jouet. Et inversement,
vous parlez des migrants, donc ils sont en France, qui n'ont pas l'habitude de cuisiner des produits effectivement qu'on pourrait leur proposer dans les épiceries alimentaires, même si c'est à 20% du prix habituel,
voilà.
Hein, donc c'est
exactement
hyper attractif économiquement pour eux, mais ils savent pas quoi en faire, grosso modo.
Donc il y a la première chose, c'est qu'il va falloir en plus travailler sur de la sensibilisation à cette consommation. Alors qu'est-ce que on a fait nous depuis maintenant 15 ans, parce que monsieur Arech n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans le territoire, on a mis en place des actions qui s'appellent la compagnie des gourmands. Et la compagnie des gourmands, ce sont des moments où on associe des parents, des grands-parents, des beaux-parents, peu importe, enfin, le référent familial et l'enfant. Et on incite à faire ensemble, à manger, des choses simples qui redonnent l'envie, le plaisir de partager une alimentation. Et évidemment, de faire passer des messages relativement simples et audibles par le plus petit commun des mortels sur comment je consomme des fruits et légumes. Le vrai problème aujourd'hui...
Sachant que les fruits et légumes, justement, c'est très cher pour le budget d'une famille
pauvre.
C'est
pas uniquement que c'est très cher. C'est-à-dire que les études menées et publiées par l'Institut de veille sanitaire en 2008 faisaient apparaître que seul 1,2% des populations précaires qui fréquentaient l'aide alimentaire s'inscrivaient dans les fameux repères de consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est-à-dire en gros 400 grammes et en gros 5 pommes, pour illustrer le propos. Donc là, il y a un vrai déficit. Alors, pourquoi il n'y avait pas uniquement la question du coût, vous avez raison, mais on trouve plein de légumes à 1 euro dans les mêmes enseignes. C'est aussi un problème culturel de pas habitude de consommation. C'est un problème de temps, c'est-à-dire que éplucher, préparer, ça paraît toujours pour les gens compliqué.
D'habitude, de compétences, de connaissances, tout ça. C'est vrai que
quand on manque de valorisation.
Et quand on feuillette votre manuel de cuisine populaire qui est édité par les épiceries solidaires et puis aussi vos livres de cuisine Sonia Esgulian, on se rend compte que effectivement, ce ne sont plus des automatismes en fait chez nous sur le plan culturel de savoir recuisiner tous ces aliments pour faire des économies et donc limiter le gaspillage. Vous restez avec nous tous les deux, Guillaume Babs et Sonia Esgulian. On en reparle. On parle de justement comment lutter contre le gaspillage alimentaire, y compris au niveau des foyers. C'est là que ça se passe énormément, en tout cas dans les pays développés. Appelez-nous les voisins et les voisines pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans votre ville, au 33 1 84 22 60.
Hey. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, nous parlons du gaspillage alimentaire aujourd'hui et du gaspillage surtout au niveau des foyers, de la gestion du frigo, des restaurants, mais surtout évidemment aussi des supermarchés, même si vous nous le rappeliez, Guillaume Babs, vous êtes directeur de l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, hein, donc vous aidez les plus démunis à accéder à des denrées alimentaires à peu près à 20% du prix vendu chez les commerçants. Vous nous le rappeliez, finalement, la redistribution à la base, enfin à partir des invendus des supermarchés, ne représente qu'une petite partie du gaspillage alimentaire qui se fait essentiellement au niveau de nos frigos. C'est bien cela, hein, Guillaume Babs.
Alors, ça se fait au frigo quand c'est en phase à la fin et en amont en agriculture. Hein, et donc là-dessus, il y a deux sujets. Il y a d'abord comment on incite une production agricole à mieux produire en fonction des besoins. Ça, c'est le programme unitaire qu'on a développé en France et qu'on développe à l'étranger maintenant.
Un tiers du gaspillage se fait au niveau donc de la production de l'agriculture, exactement. Compris dans les pays développés, même si c'est beaucoup plus important dans les pays en développement où là, c'est l'essentiel du gaspillage qui se fait au niveau de la production, au niveau de la terre.
Hein. Exactement. Et l'autre tiers, donc en final, c'est nous, en consommateurs, quand effectivement on achète nos salades sous blister et puis qu'on les oublie parce qu'entre-temps, on a été invité à dîner trois fois. Sous cellophane,
dans un sachet.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, hein, qui ont une durée de vie assez courte, et donc on les oublie et on jette. Donc un tiers, c'est effectivement nous qui jetons.
Sonia Esgulian, vous avez pas mal de conseils à nous donner parce que vous éditez maintenant, vous écrivez des livres de cuisine, cuisiner tout simplement ma cuisine astucieuse, notamment pour essayer de perdre le moins possible de denrées alimentaires.
Oui, mais surtout aussi, enfin, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand on a des produits, c'est aussi avoir beaucoup d'idées pour cuisiner plus vite, cuisiner pratique, cuisiner joli, parce que c'est important aussi d'avoir des jolis plats. C'est pas parce qu'on a des invendus, bien des sûr. Restes ou des produits un petit peu tout cabossé qu'on est obligé de cuisiner un plat pas très sympa et qui n'est pas du tout réconfortant. Donc l'idée, c'est aussi de donner beaucoup
plaisir
beaucoup d'idées
et lutte contre le gaspillage.
Et c'est important aussi de réapprendre les gestes et en plus de distribuer, ce que j'ai déjà fait pour une de vos épicerie solidaire à Malakoff, c'est aussi de proposer à des gens des cours de cuisine, des astuces pour valoriser justement le repas ensemble en proposant aux enfants de cuisiner avec les parents parce que c'est très amusant et puis parce qu'aussi ça permet de découvrir le produit, de savoir ce que
c'est. Et de valoriser la personne.
Exactement. Et ça c'est important parce que ça ne peut pas être fait. En fait, toutes les actions doivent être faites main dans la main. Et c'est pour ça que c'est important de se rencontrer, de parler calmement bien sûr, et de proposer des idées ensemble.
Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Pierre, qui est à Lubumbashi, deuxième ville de République démocratique du Congo. Bonjour Pierre, soyez le bienvenu.
Pierre, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les voisins et voisines de la radio du monde.
Soyez le bienvenu Pierre. Alors parlez-nous du gaspillage qui se passe chez vous dans votre foyer.
En tout cas, moi, j'ai gaspillé toujours la nourriture par rapport aux coupures répétitoires des courants électriques. Alors, je voudrais savoir si vous avez une autre solution à me proposer, des conservations de nourriture sans courant électrique, afin d'éviter les gaspillages.
Alors, vous posez une très bonne question parce que je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Pour les voisins qui ont la chance d'être équipés d'un frigo, c'est moins de 20% de la population sur le continent subsaharien, mais évidemment, c'est un chiffre qui monte, notamment quand on est dans les villes. On a un frigo, sauf que quand il y a un délestage, effectivement, eh bien, on perd. Sonia Esgulian, est-ce que vous avez des astuces que connaissaient bien d'ailleurs nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, etc.
Et en fait, pour tout ce qui est végétal, on peut faire une première découpe des différents aliments et par exemple les conserver dans de l'huile ou dans une matière grasse. On savait très très bien le faire avant. Dans toutes les campagnes, on avait du saindoux, des huiles, différentes choses. Alors l'idée étant d'avoir des contenants, de découper les légumes et de pouvoir les conserver. Alors effectivement, bien recouverts de la matière grasse et ensuite quand on les utilise, on les égoutte longuement.
Donc ça, on peut le faire avec des légumes par exemple qui ont été cuits au préalable.
Comment ?
cuit au préalable, les légumes
cru, d'ailleurs, parce que par exemple, vous pouvez tout à fait, je pense,
mettre des carottes,
en exemple,
dans
un poivron, des carottes. Ouais. Si vous avez du végétal pur, par exemple, des feuilles, ou même des tiges d'herbes aromatiques, pourquoi pas, on pourrait garder aussi les herbes aromatiques, parce qu'elles peuvent parfumer tout un tas de
préparations. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'air, hein, bien sûr.
Voilà, l'idée, c'est de recouvrir complètement. Donc, à chaque fois qu'on prélève...
Et ensuite, fermer avec un couvercle.
Qu'on prélève... Bah, en fait, si c'est surtout bien... c'est plus hygiénique de fermer, mais en fait, tout, si c'est bien recouvert, et à chaque fois qu'on se sert du légume ou des feuilles ou autre, on pense bien à recouvrir...
Peut-on faire la même chose pour la viande qui a été cuite au préalable ?
C'est plus difficile. Là, il faut... Alors, plutôt opter pour le séchage, soit avec du sel, soit il y a différentes techniques, mais là c'est pratiquement la seule solution sans réfrigérateur pour pouvoir conserver
sel et soleil, évidemment à l'abri des mouches. Ce sont des techniques qu'on a tendance
qu'on
a beaucoup oublié,
qu'on a complètement oublié, alors que ce sont des techniques ancestrales qui ont fait leurs preuves et qu'on va redécouvrir comme on redécouvre aujourd'hui l'agriculture, un certain bon sens et plein de techniques.
Nous sommes en ligne. J'espère que ces conseils vous sont utiles, Pierre, si vous êtes toujours en ligne avec nous. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Nous accueillons un autre voisin qui nous appelle de Dakar. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Emmanuel.
Oh, vous êtes dans la rue, il y a un peu de bruit derrière vous. Mais si en nous parlant, vous essayez de vous mettre dans un endroit un peu plus calme, ça serait bien. Vous êtes au milieu de la circulation, je crois. Vous êtes père de famille et vous sentez concerné par le sujet du gaspillage alimentaire.
Ouais.
On vous écoute,
oui,
Abdoulaye.
Oui, moi, je pense que nous devons éviter le gaspillage, voire l'arrêter. Parce que quand on sait que plein de gens meurent sur Terre, notamment en Afrique subsaharienne, nous, au Sénégal, le père de famille, quand il reçoit son salaire la fin du mois, il va à la boutique pour acheter un sac de riz et une bouteille d'huile. Il suffit de donner 1500 pour satisfaire aux besoins de la famille. Quoi. C'est 1500 là, c'est environ les dépenses pour les repas de la journée.
Oui.
Mais de ce fait, il n'y aura pas de gaspillage.
C'est ça. Donc, l'idée, si j'ai bien compris, Abdoulaye, parce que la ligne est mauvaise, il y a vraiment beaucoup de bruit autour de vous, l'idée, c'est d'acheter tous les jours, et c'est ce que font de nombreuses familles africaines, si tant est que la mère soit au foyer, qu'elle ait un petit peu de temps, etc. L'achat au jour le jour, c'est quelque chose que vous continuez de recommander ou pas les uns et les autres?
Oui, je l'ai découvert une première fois. J'étais partie en voyage à Naples chez des amis et ça m'avait étonnée de voir notre amie qui, chaque soir rentrant du travail, s'arrêtait dans les différents petits commerces en rentrant chez lui pour acheter un petit peu de fromage, un tout petit peu de légumes. Et alors je lui avais dit, mais quel est l'intérêt de tous les jours? Mais il me dit, déjà socialement c'est hyper intéressant, je passe un bon moment, je discute avec mes commerçants et je n'ai que la juste quantité de ce dont j'ai besoin. Je ne surcharge pas mon réfrigérateur, je ne suis pas obligée d'acheter. Alors évidemment, si on est 8 à table tous les soirs, c'est un petit peu plus dur. Mais on peut repenser parce qu'on achète souvent énormément, beaucoup trop par rapport à notre consommation.
Retourner au marché finalement, faire ses courses au marché de plein vent, c'est une chose. On voit bien que la politique des agroalimentaires et des enseignes, ça a été de nous faire surconsommer. Et notamment, par exemple, une des offres pernicieuses, c'est, vous savez, vous achetez deux produits et le troisième est gratuit. Et en fait, souvent ça aussi, ça induit du gaspillage.
Les yaourts vendus par 10, 12, voilà. Etc.
Alors les Anglais, par exemple, ont fait un truc assez marrant. Ils ont décidé qu'ils vous donnaient un bon et que vous venez chercher la troisième boîte plus tard. Alors évidemment, on voit bien l'intérêt, c'est que vous faisiez un deuxième passage en caisse, que vous alliez reconsommer, ou même que parfois, de manière cynique, vous alliez perdre le bon. Mais en tout cas, ça, c'est peut-être un geste de lutte contre le gaspillage, et d'inciter les gens à venir chercher le produit. En Allemagne, ils ont fait une expérience assez intéressante, qu'on pourrait coupler à celle de Courbevoie, c'est qu'ils ont installé des frigos dans la rue. Et donc, le soir, l'enseigne met dans le frigo, qui est ouvert à tout le monde, les produits qui sont plus achetables, pour des questions de date de valeur, et vient qui veut prendre dans le frigo, et là on a conservé la fameuse chaîne du froid dont je souhaitais qu'on aborde le sujet tout
à l'heure. Et il n'y a plus de problème logistique pour acheminer jusqu'aux épiceries solidaires par exemple, jusqu'aux banques alimentaires.
Alors, il y a toujours, de toute façon, c'est le problème de la loi, telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale et telle qu'elle va être vue ce soir au Sénat, c'est que le grand absent de cette loi, c'est la problématique de la logistique, qui est quand même le gros la grosse épée de Damoclès, parce qu'elle coûte très cher, on le sait. Alors il y a des expériences intéressantes. Moi, j'étais voir à Genève une association qui a mis en place des triporteurs électriques. Alors ils font d'abord un atelier de montage de ces triporteurs, donc ça met des gens au travail. Ce sont des caisses réfrigérées qui sont relativement légères et donc qui permettent de mettre 100 kilos. Alors, évidemment, on est sur un territoire genevois où rien n'est très loin, mais du coup, ces petits triporteurs que tous les genevois connaissent parce qu'ils sont bien lookés, assez sympas, et va chercher les plats dans les restaurants, dans les cantines, dans l'agriculture, dans les enseignes, et c'est ramené et après c'est redistribué. Il faut trouver des solutions. Et un triporteur coûte 5 fois moins cher qu'un camion frigo. Voilà. Et donc ça pose moins de problèmes de pollution, plus de problèmes de facilité de transport dans les villes, et c'est moins compliqué de se garer, et ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'aller chercher des petites quantités. Nous, on a fait l'expérience avec une enseigne où on allait chercher chaque jour ce qu'ils nous donnaient. Et en fait, on s'est aperçu que le don était pas très bien pratiqué, parce que parfois c'était un peu tout en vrac, qu'il était irrégulier, et que du coup, ça nous coûtait très cher d'avoir ce camion qui faisait cette tournée. La logistique est un des cœurs du problème.
Avec le tri, parce que vous travaillez aussi beaucoup avec les marchés de gros, hein. Il faut dire que ce que vous récupérez, les invendus des supermarchés ne représentent que 40%, donc des denrées que vous allez ensuite redistribuer pour un prix extrêmement modique aux plus défavorisés. Vous récupérez aussi beaucoup dans les marchés de gros, c'est-à-dire Rungis notamment.
Voilà, c'est un partenariat qui a été mené avec l'État et avec la Semaris, qui est la société qui gère Rungis, plus gros marché frais du monde, hein, n'oublions pas, depuis maintenant 2007. Et nous collectons tous les jours les fruits et légumes qui ne seront pas vendus par les grossistes. Ils sont parfaitement consommables pour certains, ils ont juste un défaut d'aspect, il y a une erreur d'aiguillage logistique, et donc nous en valorisons 52%. Ça veut dire que 52% de ces fruits et légumes, hein, aujourd'hui, c'est on en livre 800 tonnes qui viennent de ce système, avant ils partaient à la poubelle, et c'est un support pour remettre des gens au travail. Donc il y a une triple action finalement. Il y a à la fois lutter contre le gaspillage en valorisant ces fruits et légumes dans des chiffres assez importants, il y a s'en servir comme un support de retour à l'emploi, et de fait, et n'en déplaise à notre ami, c'est le meilleur taux de France de retour à l'emploi, parce que c'est un vrai métier qui allait sur le métier de la logistique, donc les gens retrouvent du travail très rapidement. Et troisièmement, ça permet de faire consommer des fruits et légumes aux populations précaires en le distribuant à toutes les associations. Et justement, pour résoudre le problème de la logistique, nous avons réfléchi au départ, c'est nous qui assurons la logistique et qui nous livrons à la porte de la structure les fruits et légumes.
Quand on vous écoute, on se dit qu'on revient de loin quand même en termes de gaspillage alimentaire. Sur un énorme marché de gros comme Rungis, c'est quoi le pourcentage de gaspillage? Vous avez une idée?
Il est très difficile, parce que toutes les entreprises, la Semaris en faisant partie, quand vous allez les voir et que vous les questionniez il y a quelques années sur le gaspillage alimentaire, tout le monde disait, circuler, il n'y a rien à voir, on ne gaspille pas chez nous. C'est pas politiquement correct de dire qu'il y a ça. De fait, on sait bien qu'il existe. Donc, en creusant et en essayant de... Et je crois que c'est un des intérêts de la loi Garot qui va être évoquée, c'est qu'elle n'est pas dans la stigmatisation. Je crois qu'il ne faut pas pointer du doigt en disant vous êtes des vilains. Ça n'a pas de sens. Il faut essayer de fédérer les gens sur la bonne volonté, sur l'intelligence, sur une réflexion partagée, de dire une prise de conscience, de dire c'est plus possible et on doit trouver des moyens d'agir. Et je crois que c'est là l'intérêt de la loi Garot, c'est qu'elle n'est pas excessivement coercitive.
Il faut redire que c'est quand même le consommateur qui gaspille énormément au niveau de son foyer, beaucoup plus que les supermarchés.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de trouver des solutions, comme les livres de madame ou comme le nôtre, c'est de dire, mais redonnons aux gens l'envie de faire à manger, de se réapproprier. Et n'oublions pas, et vous avez complètement raison, et merci de l'avoir dit aussi explicitement, n'oublions pas le plaisir, parce que manger, c'est d'abord du plaisir.
Alors, avant de reparler du plaisir et de donner quelques astuces, je voudrais qu'on accueille un auditeur qui attend de passer à l'antenne. C'est Antoine qui est à Clichy-sous-Bois. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour Emmanuel. Effectivement, j'attendais avec impatience de passer à l'antenne. Et bonjour à RFI, et puis aux auditeurs, et puis aussi à votre invité. Alors, moi, une fois, j'étais arrêté à un arrêt de bus, et il y avait une vieille dame qui fouillait dans une grosse poubelle et qui regardait des produits qui étaient emballés, qui n'avaient pas été ouverts, du style des tranches de jambon, des poulets, des cuisses de dents, enfin des produits qui étaient panés.
Donc, qui avaient dépassé la date limite de consommation, la fameuse DLC, probablement.
Je n'ai pas regardé si les dates de péremption étaient effectivement dépassées. Par la suite, j'ai discuté avec le gérant du magasin. Il m'a dit bon, ce sont des produits qui sont à limite dépassés et dont on ne peut pas gérer. Donc c'est quand même assez embêtant, quoi, de voir des produits qui pourraient être encore mangeables.
Ouais, ça vous a choqué?
Ouais, ça m'a quand même surpris. Donc c'est pour ça que je suis allé voir le gérant. Je lui ai proposé la chose suivante. Mais alors, pourquoi vous feriez pas, en fonction des cartes de fidélité, regarder les meilleures ventes que vous avez par rapport à chacun, avec chacun de ces clients-là, et de dire bon bah voilà, vont vous sélectionner les clients qui ont fait les meilleures ventes avec lesquels vous avez fait. Et vous leur vendez le deuxième produit pour 1 euro de plus ou bien au prix coûtant, voilà. Et ça serait peut-être pas mal.
Sauf que la personne qui fouille dans les poubelles, évidemment, du coup, sera privée de de repas, mais elle peut se diriger vers les banques alimentaires.
Elle peut se diriger vers la banque alimentaire, ça pourrait être distribué pour un euro de plus. La personne dirait, voilà, vous nous donnez 1 euro de plus, et puis on fournit un produit qui est pratiquement à la date de péremption pour un organisme.
Merci Antoine de nous avoir appelé. Voilà. C'est pas simple, hein, parce que ça pose aussi évidemment des problèmes de dignité, que des gens soient obligés pour se nourrir de fouiller les poubelles, alors que justement on peut se rendre dans les épiceries solidaires, mais là aussi il faut quand même donner une petite participation financière. Je voudrais que nous accueillions Bernard Boutboul qui est en ligne avec nous. Bonjour Bernard Boutboul.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de Gira Conseil, qui est un cabinet spécialisé en conseil concernant la restauration. Pourquoi nous souhaitions vous donner la parole? Parce que dans le cadre de la loi française sur les biodéchets, eh bien ce qu'on appelle le doggy bag dans les pays anglo-saxons est désormais fortement recommandé dans les restaurants depuis le 1er janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement de quoi il s'agit?
Alors, comme vous le dites très justement, il est fortement recommandé et non pas obligatoire comme les médias en ont parlé au début de l'année. Alors, de quoi il s'agit? C'est très très simple, c'est qu'on donne la possibilité au consommateur qui n'a pas fini tel ou tel plat, entrée ou éventuellement dessert, de ramener avec lui dans un packaging qui est plutôt assez bien fait et assez qualitatif, de ramener ça chez lui ou au bureau, enfin bref, de ramener ça plutôt que de gaspiller.
D'accord, ça c'est le principe du doggy bag. Vous, qu'en pensez-vous?
J'en pense que c'est une excellente initiative anti-gaspillage. La seule chose, c'est que c'est recommandé en 2016, mais ça existe depuis une vingtaine d'années et on n'y arrive pas. Les consommateurs ne veulent pas.
Ça existe dans les pays anglo-saxons où c'est extrêmement répandu. Là, en France, en plus, il semblerait que ça ne concerne que les restaurants qui servent entre un certain nombre de repas par jour. A priori, cette obligation, mais cette recommandation forte.
Oui, tout à fait, à partir d'un nombre de couverts assez conséquent. Mais il faut savoir qu'en France, il y a une dizaine d'années, et ça essaye déjà encore aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs ont essayé en proposant aux consommateurs de ramener, et la réponse a été systématiquement non. Ouais. Alors non, pourquoi? Parce qu'ils sont gênés, parce que ils ont l'impression, enfin ils n'ont pas l'impression, c'est sûr, ils emmènent des restes, et c'est le mot reste qui est un peu problématique dans leur esprit. Donc ils sont très gênés.
Il y a un vrai problème culturel là-dessus, parce que des restaurants américains, y compris des restaurants très chics, les gens repartent, ils n'ont pas de besoin financier particulier, ils repartent avec leur petit doggy bag. Donc on est vraiment sur un blocage culturel, vous pensez, dans nos pays latins?
C'est un blocage culturel, effectivement, dans les pays latins. Dans les pays anglo-saxons, c'est une pratique extrêmement courante. J'étais à Londres ou à New York il n'y a pas tellement longtemps. C'est une banalité. C'est même, comme vous le dites, des gens aisés et non pas uniquement des gens dans le besoin, contrairement à la grande distribution. On a repéré, en revanche, en France, quelques restaurants qui, au lieu de le proposer, le font. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien et à la fin de votre repas, ils vous amènent un sac joliment emballé d'une boîte dans laquelle ils vous donnent quelque chose. Alors vous êtes évidemment surpris, mais là, ils vous mettent devant le fait accompli. Et là, on s'aperçoit que 100% des clients l'emmènent. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas le proposer, il faut l'imposer.
Ah oui, d'accord. Vous ne partirez pas du restaurant sans vos restes.
C'est peut-être
un peu radical.
Non, c'est gentiment proposé, mais je peux vous assurer que les clients sont très très contents de ces restaurants.
Évidemment, il y a un effet d'entraînement ensuite, bien sûr, une dédramatisation du geste. Merci infiniment Bernard Boutboul d'avoir été en ligne avec nous, directeur de Jira Conseil. Merci beaucoup pour vos explications. Une question d'auditeur pour vous, Sonia Esgulian. Djibril, qui est à Kaye au Mali, nous dit quelle quantité de nourriture est réellement nécessaire chez moi. Voilà la question qui se pose. Il nous dit on peut jamais savoir. Il arrive qu'on reçoive des amis à la dernière minute, que les enfants n'aient plus faim ou aient plus faim que d'habitude, ou que le plat concocté ne plaise pas à tous. Bref, la problématique de millions de foyers dans le monde, comment faire dans ces cas-là pour ne pas gaspiller.
Mais après, il faut adapter aussi alors ce qu'on a en produits frais et ce qu'on a en produits secs, parce que les produits secs, c'est merveilleux. Hein. Du riz, les conserves aussi, on n'en parle pas, mais les conserves, c'est assez magique parce qu'on peut faire des choses surprenantes. Moi, j'aime beaucoup la boîte de sardines, ça fait des années que je travaille autour de ce produit. Extrêmement simple, mais la boîte de sardines, c'est pas simplement pour les fins de mois difficiles. Ça peut devenir un super plat bien préparé. On peut faire, par exemple, j'ai une recette que j'aime beaucoup, c'est des petites croquettes de sardines en boîte que je fais avec des petits zestes de citron. On peut les faire avec ce qu'on a sous la main, juste de la chapelure de pain. Ouais. Et c'est absolument
on
délicieux.
On avait annoncé au début de l'émission, que peut-on faire avec des pelures d'oignons? On n'avait pas donné la réponse.
Une chapelure extraordinaire. Par exemple, je fais sécher les pelures d'oignons. Je prends déjà toutes celles qui sont sèches, les premières que vous enlevez. Le reste, vous les gardez aussi, vous les faites un tout petit peu sécher à l'air libre. Ensuite, vous mixez le tout avec du pain, évidemment des restes de pain qu'il vous reste. Et cette chapelure, d'abord, avec les oignons violets, c'est assez spectaculaire, mais ça marche très très bien avec d'autres oignons, les oignons blancs, les oignons jaunes, etc. Et vous avez une chapelure extrêmement parfumée. Et si vous faites, par exemple, même une simple poêlée de légumes ou du poulet que vous allez paner, vous allez avoir un goût incroyable alors que vous avez utilisé que des restes pour pouvoir faire cette préparation.
Et donc, ça évite de mettre des oignons entiers, finalement.
Ça évite. Vous avez une préparation avec des oignons, mais ça évite de jeter les oignons.
Bien sûr. Ketchup de mangue.
Oui, mais par exemple,
faire soi-même. Alors, il faut savoir qu'on parle à des voisins qui, parfois, à la bonne saison, les mangues tombent par terre, on ne sait pas quoi en faire.
Hein. Oui, ben alors il y a plein d'idées. Je donne plein de recettes de différentes sauces, etc. Et dont ce ketchup de mangue qui est très apprécié des enfants. En fait, il suffit de prendre de la mangue bien mûre, de la mixer. Alors là, je propose avec de la moutarde Savora, mais on peut faire avec ce qu'on veut, de la moutarde autre. On mixe. Et alors, si on veut quelque chose de très fort, on peut même rajouter un peu de curry, et on obtient un ketchup qui a beaucoup de caractère et qui est hyper sympa.
Et qui se conserve comment, lui ?
Alors, qui va se conserver au réfrigérateur. Alors, on va dire une petite semaine au réfrigérateur, et on peut, si on le consomme sans réfrigérateur, 2-3 jours.
Ou le faire en conserve, c'est-à-dire...
Ou alors, on peut carrément le faire en conserve.
La méthode classique dans l'eau bouillante, etc.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous avez d'autres astuces comme ça avant qu'on se quitte? Le fameux beurre clarifié des Indiens aussi que vous souhaitez remettre au goût du jour, Sonia Esgulian?
Ben, en fait, c'est surtout qu'il se conserve un peu plus longtemps. Si on est dans des situations un peu compliquées, je sais pas, moi, en bivouac ou autre, la meilleure solution, c'est effectivement de faire du beurre clarifié parce que vous pourrez garder le beurre beaucoup plus longtemps que du beurre entier, on va dire, pour pouvoir cuisiner. Donc ça, c'est une excellente idée.
Clémence à Vancouver aussi a des solutions à proposer. Elle nous a envoyé ce message. Faire ses courses en petite quantité, acheter juste ce dont on a besoin. Oui, ça, on en a parlé. Consommer d'abord les produits entamés et défraîchis de son frigo. Ça veut dire ranger son frigo. Utiliser le congélateur pour conserver les restes trop importants. Ça, pour ceux qui ont un congélateur. Faire usage du compost, bien évidemment. Mais enfin, ça, c'est quand même, faut avoir un petit lopin de terre ou au moins une terrasse ou une cour. Ne pas choisir de légumes trop parfaits en magasin. Les fameux gueules cassées. Je sais que ça vous parle, Guillaume Babtz.
Oui, on a un système où les échanges, en tout cas dans nos pays à nous, latins et nord-nord, sont plutôt dans des échanges par téléphone, par internet, et l'achat se fait comme ça. Donc le client, le fournisseur ne voit pas le produit. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel au calibre. Et le calibre, il a l'effet pervers d'effectivement d'écarter de nos rayons tous les produits qui sont pas parfaitement normés et qui sont pour autant aussi bon.
Il faut quand même préciser que 16% des pommes en France sont écartées du marché de la vente. Hein. Voilà. C'est quand même énorme.
Donc c'est pour ça qu'il y a un groupement de producteurs qui a créé un logo qui s'appelle les gueules cassées. C'est un petit sticker qu'on met sur le produit et qui dit ce produit, il est parfait en termes de qualité. Simplement, c'est juste son aspect physique. Eh bien voilà, soyons les premiers aussi en alimentation à ne pas faire la stigmatisation sur la taille, la couleur des yeux ou je sais pas quoi.
Mais oui, mais si on retourne au marché, on voit bien que si vous achetez une botte de betterave, betteraves, elles ont aucune à la même taille. Et ça, c'est plutôt agréable aussi, parce Absolument. Que ça permet de faire les choses différentes.
Faut-il vraiment, là, aujourd'hui, revoir notre éducation à la nourriture? Et comment?
Je crois que c'est essentiel. C'est ouais. essentiel. Et nous, on croit beaucoup, à Andes, à l'idée d'y associer les enfants tout de suite. Tout en faisant attention de ne pas mettre le parent en porte-à-faux. Il faudrait pas que le message qu'on fasse passer à l'enfant fasse que le parent se sente dépossédé ou culpabilisé de mal nourrir. Si l'enfant disait à sa mère, tu dois me donner 5 fruits et légumes par jour, tu le fais pas, ça serait un jugement de valeur, ça serait mettre la mère en position d'échec. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que nous, avec différents grands groupes de agroalimentaires, dont un qui est spécialisé dans une pâte à tartiner qu'on adore tous, on a mis en place ces actions autour des enfants et des parents, pour bien que le message passe de la même manière et qu'il n'y ait pas de culpabilisation, et que juste le lien fédérateur, ça soit le plaisir de faire ensemble, le plaisir de partager.
Sonia Esgulian, sur l'éducation à la rééducation à la nourriture, peut-être d'ailleurs, non?
Non, rééducation, c'est un peu dur, je trouve. Oui. C'est vraiment un éveil au goût, au plaisir, parce que encore une fois, se nourrir, c'est un plaisir. Donc retrouver le bonheur d'aller faire simplement, par exemple, une petite promenade au marché, de découvrir le nom des légumes, leurs odeurs, les goûts un peu particuliers, de discuter aussi avec les gens, parce qu'on oublie très souvent de discuter avec les commerçants, et c'est hyper passionnant, je trouve, de pouvoir discuter avec votre maraîcher.
Un programme unitaire nous permet aussi de redonner de la valeur, je crois, au produit. C'est-à-dire que quand on oublie qu'une tomate, c'est un long
et
travail.
Et en conservant au lieu de gaspiller. Ouais. Merci à tous les deux. Sonia Esgulian, vous publiez Cuisiner tout simplement, Ma cuisine astucieuse, des bouquins super bien faits. Guillaume Babs, lesépiceriesolidaires.org, il suffit d'aller sur le site pour savoir comment ça fonctionne. Tout y est noté. Merci à vous, les voisins, pour vos messages et toute l'équipe. Didier Cherouz, Romain Dubrac, Camille Nérant, Cécile Lavolo. Demain, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Vous nous soumettez vos projets, quels que soient les secteurs. Et puis surtout, c'est l'occasion de nous parler de vos difficultés pour lancer votre petite entreprise. Accès au financement, business plan, communication. Didier Akoueté, le coach de 7 milliards, sera avec moi dans le studio.